Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent, passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. On ne s'étonnera pas d'entendre que bien manger demeure essentiel au maintien d'une bonne santé. Mais encore plus, cela a une incidence sur le vieillissement. La nutrition, c'est la pierre angulaire de la santé globale. Notre invité, docteur en biologie, a écrit plusieurs livres pour expliquer que le vieillissement ne relève pas strictement de nos gènes, mais qu'il peut être influencé par différents facteurs, dont les aliments que nous ingérons chaque jour. Avec nous, Éric Simard, bonjour.
Bonjour.
Passez une bonne semaine.
Oui, tout à fait.
Bien manger tout au cours de la semaine.
Ah, toujours.
C'est vrai qu'on est ce que l'on mange.
Oui, oui, tout à fait. Puis beaucoup plus qu'on pense.
Beaucoup plus qu'on pense. Dans le fond, là, est-ce que on se dit souvent le vieillissement, c'est de l'usure. C'est comme une vieille voiture qui s'use à la longue et qui fait en sorte qu'elle ne fonctionne plus. Est-ce que le vieillissement, c'est juste de l'usure?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment.
Et non, pas vraiment. Puis bon, quelques exemples intéressants au niveau de la biologie, qui c'est toujours épatant de le savoir, c'est que on a une méduse de la mer des Caraïbes qui est capable de rajeunir et de revenir à la période de la reproduction. Donc techniquement, elle vieillit pas.
Et, elle se régénère constamment.
Oui, tout à fait. Et on a appris avec le temps, je peux vous donner un autre exemple épatant, on a des animaux, il y a des animaux, des organismes vivants qui n'ont aucune des maladies associées au vieillissement. Et c'est quand on a constaté que qu'est-ce qui permet à ces animaux-là de vivre plus longtemps, de ne pas avoir les maladies associées au vieillissement. Ils sont bien sûr à l'étude, on ne comprend pas encore tout aujourd'hui. Mais il y a quand même des cas que je peux vous expliquer simplement, que vous allez comprendre, c'est que le vieillissement est relié à la vitesse à laquelle on se développe. Et la raison derrière est fort intéressante. Mais si on prend, par exemple, le requin du Groenland, le requin du Groenland est...
Il se développe lentement, lui.
Le plus gros prédateur terrestre avec le grand requin blanc. On n'en parle jamais parce qu'il vit à 200 mètres de profondeur, ce qui ne croise pas de plongeur. Mais il va atteindre la maturité sexuelle à 150 ans. Ce qu'on pourrait appeler...
C'est long, ça.
C'est ça. Soit il faut qu'il soit patient, mais d'un autre côté, on pourrait appeler ça un vieil ado aussi.
Ah, aussi.
Et lui, il n'aura pas les maladies associées au vieillissement. D'accord. Il va vivre 350-400 ans.
Ah, c'est incroyable.
C'est épatant, oui. Et ce qui nous a amené à comprendre ça est vraiment intéressant, c'est que, puis en plus en science, c'est intéressant aussi quand ça arrive, c'est qu'on a mal interprété une observation qui avait été faite en 1935, où on avait la restriction calorique qui nous avait dit à l'époque, bien, des rongeurs qu'on prive de 30 % de l'apport calorique vont vivre 40 à 50 % plus longtemps. Et là, c'est si on ne crée pas de dénutrition. Autrement dit, il ne manque pas d'éléments nutritifs, mais on réduit l'apport calorique au maximum. Autrement dit, il mange réellement juste la quantité qui lui permet de les maintenir en vie. Pourquoi ils vivent plus longtemps? À l'époque, on a pensé que ben, la petite bête a moins d'énergie, le moteur vire moins vite, il va user moins rapidement. Jusqu'au début des années 2000, où on s'est rendu compte que le niveau d'oxydation systémique était plus élevé que la normale. Et là, on a compris finalement, parce que l'oxydation systémique, techniquement, c'est de l'usure. On a compris là que c'était pas juste une question d'usure, que c'était qu'il y avait des mécanismes en cause. Et pour faire simple, là, pour bien vous expliquer une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui savent qu'un enfant de 4 à 5 ans qu'on va priver de l'apport calorique nécessaire va arrêter de grandir. Bien, un adulte qu'on va priver de l'apport calorique à la limite de sa survie, il va arrêter de vieillir. Parce que l'organisme va détourner toutes les capacités énergétiques pour les envoyer en maintenance et réparation pour s'assurer de passer à travers une période de jeûne, à travers une période de manque de nourriture. Et ces mécanismes-là ont été conservés dans tout le monde vivant au complet. Tous les organismes vivants jusqu'à maintenant répondent à ça.
Êtes-vous en train de nous dire qu'on devrait manger moins?
Tout à fait.
En vieillissant?
Tout à fait. C'est très clair, très, très clair. Il y a deux livres épatants, à part les miens, qui ont été écrits par deux experts dans le domaine de la longévité. La diète de longévité de Walter Longo. Et le deuxième, c'est M. Fontana. Luigi Fontana, c'est un Australien. Ils sont deux directeurs de très gros centres de recherche et, sur le vieillissement, un en Californie, l'autre en Australie. Et, ils sont unanimes, en fait. On mange trop. Trop de calories. L'apport calorique, il y a même une étude récente qui vient de montrer là, que la baisse de 300 calories de moins chez des gens qui mangent normalement, autrement dit, ce n'est pas des gens qui mangent trop de calories. Et un apport normal, on la baisse de 300 calories, puis on a déjà un bénéfice santé par la baisse de l'apport calorique.
Et c'est pour ça qu'en vieillissant aussi, on a peut-être parfois plus de difficultés à perdre du poids, parce qu'on maintient, mais on stocke davantage.
Ah, il y a beaucoup de raisons derrière ça. Il y a un changement du métabolisme, il y a les problèmes de sommeil. Les problèmes de sommeil font prendre du poids. Les problèmes de stress et d'anxiété, en vieillissant, on a une augmentation de la propension à faire du stress et de l'anxiété, malheureusement.
Alors là, on va se faire plaisir. Ça va diminuer notre niveau de stress. On va parler un peu de ce fou sur la colline. Et notre technicien va être très heureux parce que c'est une chanson des Beatles, The Fool on the Hill. Vous aviez proposé John Lennon, mais vous aviez proposé une chanson de Noël. Il est encore un peu tôt pour parler de Noël. On a tout le temps de pouvoir y arriver. Alors on va écouter d'abord les Beatles.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Bon, on revient. Les Beatles nous ont fait sourire. Maintenant, vous allez nous faire dormir parce que vous nous dites que l'insomnie, c'est pas une bonne chose. Il faut bien dormir.
Ah oui, c'est crucial, c'est crucial. Le sommeil, écoutez, je vais vous expliquer une chose étonnante, encore là de la biologie. On pense, le sommeil, hein, on va penser automatiquement que c'est pour se reposer, c'est pour refaire nos... recharger nos batteries. Ceci dit, c'est beaucoup plus que ça. Le sommeil va harmoniser tous les processus hormonaux du corps humain, tout le métabolisme au complet, en fait. Tout va être remis à zéro pour amorcer une nouvelle journée. Et au niveau du cerveau, on a deux grands processus. C'est que d'un côté, le sommeil va permettre au cerveau de refaire son bagage de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, ces petites molécules chimiques-là qui nous servent en fait à réfléchir, qui servent à la mémoire, à la pensée, les sentiments. C'est important donc à toutes les nuits de refaire le bagage de ces molécules-là.
Comme si on fermait l'ordinateur pour le repartir le lendemain matin.
Oui, mais en même temps, en parallèle, il va se passer tout un paquet de processus. Parce que...
Mises à jour.
Des mises à jour, c'est ça. L'ordinateur va faire les mises à jour. C'est exactement ça. Et donc, on va aussi aller imbriquer au niveau de la mémoire ce qui est important. Ce qui est important de se rappeler. Et donc, quand on prend connaissance de ça, je vous dirais deux choses. Hein, c'est que pour avoir un bon sommeil, il faut en avoir besoin. en tant que tel. Fait qu'il y a une partie des problèmes de sommeil en vieillissant qui viennent du fait qu'il y a des gens qui sont moins actifs, déjà d'un côté, mais moins actifs autant physiquement que mentalement. C'est important de garder un niveau mental d'activité qui va forcer le besoin du cerveau à dormir.
Dans un de vos livres, on va y revenir après la pièce musicale, mais vous parlez d'allonger la vie de 20 ans. On verra comment. Il y a Ginette Renault, elle, qui nous dit qu'on ne fait que passer parce que, faut bien le dire, la vie est aussi une maladie mortelle. On va tous mourir un jour, mais l'important, c'est de mettre de la vie dans les jours où nous sommes en vie. Alors, on écoute Ginette Renault, puis on parle de prolongation de vie par la suite.
Quelques éclats de vie, de trois photos usées au banc des souvenirs, un cœur des noms gravés, des mots d'amour, des fleurs que je sème sans compter, de toutes ces couleurs, que va-t-il en rester? Les yeux doux d'une mère tout près du Saint-Laurent, le sable d'une terre qui coule dans mon sang, de joies en creux de vagues et de doutes en succès, de toutes ces batailles, que va-t-il en rester? Un refrain, une trace, un bout d'éternité, que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Un refrain, une trace, un rêve partagé, qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Dans l'album de famille, des rires, une grande tasse, coin de feu où brillent des heures inoubliables, avec les chants du soir, une envie de rêver, de toutes ces belles histoires, que va-t-il en rester? Un refrain, une trace, un bout d'éternité, que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Un refrain, une trace, un rêve partagé, qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Quelques notes oubliées, laissez-moi une place, je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Oh. Un refrain, une trace, un bout.
On ne fait que passer, mais pour l'instant, on est bel et bien là, puis on aimerait ça que ça dure longtemps, qu'on prolonge notre vie de 20 ans. Comment on fait?
En fait, le 20 ans, il faut comprendre une chose, c'est que la science du vieillissement nous montrait, puis j'ai été conservateur dans le 20 ans, chose qui peut paraître étonnante. Tout à l'heure, je vous ai parlé du livre de Walter Longo.
Oui.
Monsieur Longo lui avance 30 ans. Mais bon, que ce soit lui ou que ce soit moi qui ayons raison, en fait, il semble avoir raison. Depuis la publication de mon premier livre, il y a des études qui ont montré qu'on aurait jusqu'à 20 ans de différence d'années qu'on peut profiter de la vie versus les personnes qui ont des habitudes de vie parfaitement saines versus celles qui ne font pas attention. Et qu'est-ce que ça représente en tant que tel? Ben, c'est quelqu'un de 50 ans qui arrivera à 70 ans avec la même apparence, les mêmes capacités physiques. Puis on en a. On a juste à penser à nos entourages, on a juste à penser aux gens qu'on connaît. On peut trouver, moi j'ai un oncle qui a 75 ans, capable de faire 30 km en vélo. Donc on en a des gens qui ont gardé des capacités exemplaires. Le 20 ans ou le 30 ans, il est là. Mais il est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, on regarde ces gens-là puis on se dit, mon Dieu, t'as pas vieilli, ou mon Dieu, t'es...
Si on simplifiait là, au maximum, quand on parle de bonnes habitudes de vie, ça veut dire bien manger, donc fruits et légumes, moins de viande rouge, je présume.
Oh, il faut essayer.
du poisson de temps à autre, si on peut en manger. Moi, je peux pas, je suis allergique, mais il y a toujours moyen de compenser. De l'exercice physique.
Oui, tout à fait. C'est extrêmement important. La saine gestion du stress et de l'anxiété.
Des heures de sommeil.
Le bon sommeil et la qualité de la vie sociale.
La qualité de la vie sociale, ça, vous y tenez beaucoup, hein?
Oui, parce que c'est probablement le facteur le plus important. Et il y a un cinquième facteur facilitant aussi que j'écris habituellement, qui est le fait d'être fondamentalement positif. Et j'appelle ça un facteur facilitant parce que c'est facile de comprendre que les gens qui sont fondamentalement positifs, donc sont réellement très positif dans la vie de tous les jours. Là. D'un, ça en fait des gens plus agréables. Ça en fait des gens agréables à côtoyer. Ça en fait des gens qui vont avoir une meilleure préoccupation plus tôt dans leur vie ou aussi des saines habitudes de vie en général. Donc, ils vont être plus actifs. Ils vont avoir tendance à mieux manger. Puis automatiquement, si tu as une bonne vie sociale, tu es plus actif, tu manges mieux, tu auras tendance à mieux gérer ton stress aussi. Ça vient avec.
Ça fait sens. L'amour aussi, c'est sûrement important. Des gens qui vivent la solitude ont peut-être plus tendance, quand c'est pas choisi nécessairement. Il y a des gens qui peuvent être célibataires par choix, mais il y a des gens qui se retrouvent seuls par dépit et qui vont vivre beaucoup d'anxiété.
15 ans. Écoutez, les statistiques, là, c'est une personne vivant complètement seule versus une personne qui a une grande qualité de la vie sociale, c'est 15 ans d'espérance de vie.
Qui est réduite.
Oui, c'est énorme l'impact.
Alors, une chanson qui est dédiée à ces personnes-là, « My love is like a red, red rose », elle est de Robert Burns, devrais-je dire, qui était un poète écossais du 18e siècle. Et c'est interprété par le haut contre Andreas Scholl.
Come dry, my love, till all the seas.
Alors, on parle de vieillissement. L'homme qui est devant moi, Éric Simard, a l'air tout jeune. Il a peut-être 85 ans, puis je ne le sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui amène quelqu'un à s'intéresser à ce point aux questions de développement. Puis quand je regarde un peu votre parcours de vie, c'est assez intéressant. D'abord, quand vous étiez jeune, vous vous êtes beaucoup développé par vous-même. La performance, pas nécessairement la mauvaise performance, mais pour vous réussir, c'était important.
Oui, tout à fait. J'ai eu comme... j'ai toujours eu une espèce de force intérieure qui m'amenait à vouloir me dépasser, à vouloir...
Parce que vous veniez d'une famille très pauvre.
Oui, tout à fait. Puis aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a une partie de la raison qui vient du fait que j'avais pas le choix. C'est drôle, hein, mais c'est comme, à un moment donné, quand tu viens d'une famille qui est très pauvre, puis là, quand on parle de très pauvre, là, il y a des gens qui réalisent pas vraiment ce que c'est, mais pas avoir suffisamment pour manger, là. Ça, c'est très pauvre. Être habillé avec, du linge vraiment très usagé qui vient de... Et avoir un vieux sac d'école en cuir qui appartenait à mon grand-oncle, j'ai connu ça, là. Et malheureusement, j'ai été très intimidé au primaire. Et ça a vraiment pas été facile.
Vous étiez très jeune.
Oui, effectivement. J'étais au secondaire quand même, en fait. Mais mon père a fait un anévrisme. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Probablement que si on avait été dans la région de Montréal, qu'il y avait eu un hôpital à proximité, il serait encore là aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a une question de distance, il y a une question de temps d'agir, malheureusement.
Vous veniez du Saguenay, je crois?
Ouais, je venais de la Dorée, en fait, qui est un petit village au nord de Saint-Félicien. Je suis sous sauvage de Saint-Félicien. Là.
Oui.
La Dorée est à 15 km au nord de Saint-Félicien. L'hôpital le plus proche est à Robertval. Ça prend, au minimum, ça va prendre une demi-heure avec l'ambulance arrive. Si elle arrive en une demi-heure, c'est déjà bon. Puis...
Alors, marqué aussi, par l'intimidation, heureusement, vous aviez de bons amis. Vous parliez des relations sociales, à quel point c'est important. Vous les avez développées très jeunes.
Oui, mais chose intéressante là-dedans, c'est que j'ai appris en écrivant les livres que, ou plutôt j'ai pris connaissance en écrivant les livres que, malgré le fait que j'accordais une grande importance aux amis parce que j'en avais besoin, j'étais pas nécessairement le meilleur ami qui soit. Parce que pour avoir de bons amis, il faut avant tout en être un. Je le dis dans mes livres.
Ah oui?
Et il faut être en mesure de parler de nos émotions. Et pour la majorité des hommes, c'est pas nécessairement facile. Et là, il faut faire attention. Ça va de soi qu'il faut pas parler juste des émotions négatives. Il faut parler aussi des émotions positives. Il faut dire qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est sûr, aujourd'hui, je considère que c'est une des choses qu'on devrait apprendre aux enfants très tôt dans leur vie, en fait, à l'importance d'exprimer leurs émotions, pour beaucoup de raisons.
Le deuxième mouvement d'Antino Graciosio de la symphonie numéro 22, que c'est le 162 de Mozart, interprété par l'Academy of St. Martin in the Fields, sous la direction de Neville Marriner. Donc, on devrait apprendre à nos enfants l'importance d'exprimer les émotions, de pleurer quand il faut pleurer, de rire quand il faut rire, d'exprimer qu'on est heureux ou malheureux.
De dire qu'ils sont anxieux.
Oui.
En fait, les enfants, généralement, ne sauront pas qu'est-ce que c'est que l'anxiété. Ils ne sauront pas pourquoi ils vont pas bien. Pourquoi qu'à l'école, ils ont de la difficulté à se concentrer sur ce qu'ils font. Normalement, c'est aux parents à détecter que l'enfant est anxieux. Et si on peut le détecter beaucoup plus simplement, en fait, si on lui explique qu'il faut qu'il parle de ses émotions, de ce qu'il a ressenti, de comment ça a été dans sa journée. Donc, c'est extrêmement important, ça va de soi.
Quand vous étiez jeune, vous aviez peut-être une propension à travailler davantage parce que vous veniez d'un milieu très modeste. Vous aviez un frère, une sœur, je pense, qui ont veillé sur vous.
Oui, tout à fait.
Mais vous avez beaucoup travaillé très jeune, à la ferme. Oui. Au retour de l'école, on s'occupait des animaux.
Oui, c'est étonnant aujourd'hui quand j'y pense de penser en fait que le matin, puis là, la ferme, c'était pas mes parents, la ferme, là, c'était un autre fermier qui était dans mon village. Le matin, avant d'aller à l'école, j'allais à la ferme pour m'occuper des animaux, justement, tirer les vaches, qu'on appelle en bon français.
Oui.
Je revenais à la maison, prendre ma douche très rapidement, m'habiller, je prenais l'autobus, j'allais à l'école, je revenais de l'école, je retournais à la ferme toute l'année. Et je travaillais tout l'été sur la ferme. Le plus épatant dans tout ça aussi, c'est que l'été, je travaillais sur la ferme à peu près, je dirais peut-être 12 heures par jour. Puis là-dessus, je trouvais le moyen de m'entraîner encore chez moi 2 heures par jour.
Vous faisiez des
poids et haltères. Ouais, c'était une façon de me dépasser, justement. On dirait que c'était jamais assez.
Il y a une anecdote là-dessus, parce que pour montrer à quel point vous avez travaillé fort sur la ferme, mais aussi sur vous-même, quand vous êtes arrivé au cégep, j'aimerais ça que vous me racontiez cette anecdote qui est assez fascinante. Vous étiez déjà en très grande forme en arrivant au cégep. Puis...
Ah oui, c'était honnêtement, c'était pas croyable. C'était vraiment incroyable. Je suis arrivé au cégep. Au cégep, on a eu des cours de natation, on a eu des cours de conditionnement physique. Et durant le cours de conditionnement physique, on faisait de la course à pied, puis il y avait une évaluation à la course à 10 km. Bien, à la course à 10 km, à la course à pied, j'ai battu le champion régional de triathlon de l'époque aux 10 km, la course à pied, puis moi, je faisais pas de course à pied. À l'époque, lui... Écoutez, il n'en revenait pas, en fait, puis c'est un ami, c'est quelqu'un que je connaissais très bien, là, puis je me rappelle très bien son j'ai encore sa voix qui retentit dans ma tête, qui dit « Simard, qu'est-ce que tu manges? » Mais oui, j'étais vraiment...
Puis à la natation, ça a été la même chose, vous avez fait des longueurs, vous avez surpassé tout le monde, les gens étaient étonnés, mais pour vous, intérieurement, ça avait une raison d'être.
Oui, c'était une façon pour moi de me dépasser, d'atteindre des objectifs, d'aller toujours plus loin.
Et vous l'avez fait lors de vos études universitaires. Pour vous, c'est important. D'ailleurs, on pourrait mentionner le nombre de bourses que vous avez reçues. Vous n'en avez reçu un certain nombre, des bourses d'excellence. Vous avez poursuivi des recherches. Vous avez fait un doctorat en biologie. Vous avez même initié, je pense, de la recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi qui a permis d'embaucher des professeurs dans le domaine aquatique. Je crois. C'est
oui,
exact.
Tout à fait.
Bref, il y avait comme chez vous toujours cette idée de surpassement, de
réussite. Oui, ce que je dis. Aujourd'hui, je suis encore comme ça. Je vous dirais que c'est drôle. J'ai beaucoup changé, mais je suis encore dans l'idée d'essayer d'en faire toujours plus. Et ce qui est épatant, c'est que... Et de trop céduler de choses et de m'embarquer dans trop de choses. Et je réussis.
Et ça fait pas vieillir, ça?
Ah non, c'est le contraire. Ça, je pense que ça garde...
Ça garde,
je pense que ça garde plus jeune. C'est comme si on s'imaginait qu'on pourrait avoir des passe-temps qu'on trouve vraiment passionnants tout le temps. Mais moi, c'est ça que je fais.
Deux chansons maintenant que vous nous proposez dans des registres différents. D'abord, celle de Plume la Traverse, Le lac multicolore, et ensuite Gwen Stefani de Sweet Escape. Donne quelques mots sur ses choix.
Oui, bien, c'est... En fait, c'est que la chanson Plume la Traverse, je la trouve vraiment magnifique. Là. C'est un, je trouve que dans son cas, c'est une question d'accomplissement, justement. Et la chanson de Gwen Stefani, c'est complètement autre chose. C'est que on est en mesure... J'ai appris ça très tôt aussi. Mes parents étaient très, très pauvres, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ils ont réussi quand même à créer des moments magiques. Et c'est extrêmement important. Et la chanson de Gwen Stefani, c'est que quand mes enfants étaient très jeunes, les deux premiers, on prenait la voiture pour aller faire une commission, on allait à l'épicerie ou quoi que ce soit, je mettais cette chanson-là à tue-tête dans l'auto, les fenêtres baissées, puis les enfants avaient un fun noir, en fait. Donc, c'est un moment magique que j'ai créé avec cette chanson-là, qui encore aujourd'hui, là, vous verriez, c'est sûr, on l'a fait jouer, vous verriez la face de mes enfants, vous allez comprendre tout de suite que c'était un moment magique.
Fais du bonheur d'être couché dans la neige, observer des nuages, l'artistique manège, voir dans une flaque d'eau un lac multicolore. Qu'as-tu fait des petits riens que l'enfance dort? Qu'as-tu fait de l'immense chasseur de papillons sous le vent des montagnes pour trouver des grillons? Quand le moindre caillou pouvait être un trésor, qu'as-tu fait des petits riens que l'enfance dort? Qu'as-tu fait des fantômes de cette mare céleste? Hors de toi, ils ont fui sans demander le reste. Il ne te reste plus qu'une flaque d'eau qui dort. Qu'as-tu fait des petits riens que l'enfance dort? Qu'as-tu fait de tout ça, frère de tous les jours? Toi qui avais juré que ça durerait toujours. Où sont donc les rumeurs que le soleil adore? Qu'as-tu fait des petits riens que l'enfance dort?
Bad girl, I'm hitting me for you to get hurt. depending on you to turn me around. Instead of clowning around, let's look for some common ground. So baby, time's getting a little crazy. I've been getting a little lazy, waiting you to come save me. I can see that you're angry by the way that you treat me. Hopefully you don't leave me, wanna take you with me.
Alors, si vos enfants sont à l'écoute, ils vont sûrement sourire après avoir entendu ce qu'on vient d'entendre. Éric Simard est avec nous. Il faut que je vous parle parce que j'ai mentionné qu'on parlerait de nutrigérontologie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que c'est?
C'est la nutrition spécifiquement orientée vers la longévité et garder la santé en vieillissant. Ça a beaucoup de facettes, en fait, parce que ça peut être associé à la longévité, ça peut être aussi la nutrition des gens très avancés en âge aussi, les particularités de la nutrition pour ces gens-là. Donc, la nutrigérontologie, donc géronto pour l'âge, le vieillissement et la nutrition.
Diriez-vous que dans nos centres d'hébergement, de façon générale, les diètes qui sont mises de l'avant pour nourrir les résidents tiennent compte de tous ces facteurs?
Non, je suis convaincu que non. Mais avant tout, parce qu'on ne les explique pas. Puis on ne leur explique pas des choses qui sont relativement très simples. Bon, vous donner un exemple fort simple, vous allez comprendre tout de suite. Puis ce que je dis, malheureusement, en nutrition, on a tendance à porter une très, très grande attention à ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est exactement ce que je dis aux gens qu'on ne devrait pas considérer. C'est que je dis aux gens, considérez, mettez l'emphase sur tout ce que vous devez faire. Normalement, il ne restera pas de place pour le reste. Donc, il faut regarder ça positivement. Hein? Et là, je vais vous donner un exemple simple, en fait. Au début de l'année, cette année, on est en 2019. En janvier 2019, on a des scientifiques qui ont publié une étude importante sur les données de 51 pays d'Europe, l'Organisation mondiale de la santé. Les facteurs alimentaires, de déséquilibre alimentaire qui ont causé le plus de mortalité par maladie cardiovasculaire. Le premier facteur le plus important, c'est environ 500 000 morts, en fait, attribuables à des maladies cardiovasculaires, d'un déséquilibre alimentaire, c'est la faible quantité de grains entiers. Eh bien, les grains entiers ont une importance en alimentation humaine qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait auparavant. Le corps de l'alimentation du nouveau guide alimentaire canadien, c'est des grains entiers. Oubliez pas ça, là. Donc, le pain, les pâtes alimentaires, là, c'est pas bon s'ils sont pas de grains entiers. C'est aussi simple que ça. Mangez-en pas. On devrait tous les manger de grains entiers. Mais ce que je viens de vous expliquer là sur l'importance des grains entiers, on devrait l'expliquer à nos gens âgés. On devrait lui dire à quel point c'est important, en donnant des exemples.
Et à ceux aussi qui constituent, qui chaque jour vont faire les repas, si on ne leur dit pas à eux, évidemment, ça ne se rendra pas dans l'assiette.
Ça va de soi, je me le fais dire des fois, bon, les pâtes alimentaires, puis là encore là, il y a différents problèmes attachés à ça, ça va de soi, là, c'est qu'il y a des gens âgés qui ne voudront plus manger si on ne leur donne pas ce qu'ils sont habitués de manger, puis je comprends aussi le concept, ça, c'est sûr ça. Mais des fois, de leur expliquer à quel point c'est important, il y en a qui vont dire, ben, c'est encore le temps.
Il y a une pensée dans votre livre que je retiens, c'est que la vie est très courte et il faut savoir en profiter. Ginette Renaud nous dit d'une autre façon, « Je n'ai pas vu le temps passer. »
Tous ces avions qu'on prend comme des taxis de nuit vers d'autres continents, d'autres pays. Ajoutez au compteur les décalages horaires qui vous mettent le cœur à l'envers. Envie parfois de crier aux abois, ramenez-moi chez moi. Je n'ai pas vu passer le temps. Le temps ne nous attend pas. Insolent comme un cerf-volant,
il nous glisse entre les doigts. J'ai toujours regardé devant, sans jamais me retourner. J'avais tant d'amour à donner, et le monde était si grand. Ces chambres d'hôtel, tellement partout pareil, je ne sais plus dans quelle ville je m'éveille. Sauf si la tour Eiffel, traversée de soleil, me rappelle qu'aujourd'hui c'est Paris. Excusez-moi, pourrait-on faire escale ce soir sur une étoile? J'arrive à la fin de ma vie. Comment prendre le tournant quand tous les sommets sont conquis? Que sera l'autre versant? Un jour je m'en irai tranquille. Filer le temps qui fuit, tout doux, tout doux, tout doucement. Je ne vois plus la vie comme avant, quand tout semblait si facile. Regarder grandir un enfant, c'est si fort et si fragile. J'ai toujours regardé devant, sans jamais me retourner. J'avais tant d'amour à donner, et le monde était si grand. Tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour dans mon cœur. L'enfant, je n'ai pas vu passer le temps.
Alors, que retenir si on devait résumer? Puis d'abord, je vous incite à vous procurer ces livres qui sont aux éditions Marcel Broquet, c'est exact?
Oui.
La nouvelle édition. Les titres de ces volumes, c'est « Vivre jeune deux fois plus longtemps », réponse à vos questions, et « Vivre jeune plus longtemps, allonger votre vie de 20 ans », c'est écrit par Éric Simard, et l'autre est écrit en collaboration avec un médecin de famille, je crois, Jacques Lambert.
Oui, tout à fait.
Et on y retrouve beaucoup, beaucoup d'informations, et c'est très agréable à lire parce que c'est bien illustré, c'est sur du papier classé, ça se comprend bien, on n'est pas dans une zone d'incompréhension. Même les termes scientifiques sont vulgarisés et on peut comprendre à quel point il y a beaucoup de facteurs qui sont importants pour bien vieillir, parce que l'idée, c'est ça, hein, c'est de bien vieillir.
Oui, tout à fait. C'est de faire attention à préserver nos capacités le plus longtemps possible.
Et est-ce que, si vous résumiez, vous, on l'a posé la question lors de la première émission, je pense que c'était notre première question, mais on va la reposer parce que maintenant, on a fait un grand tour de la question. Est-ce qu'il y a une recette pour vivre heureux? Et vivre longtemps.
Vivre longtemps et heureux. Oui, il y a une recette, c'est sûr. Les facteurs en question qui sont décrits, les explications qui sont données sont tellement importants, en fait, sont tellement importants à considérer. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Je vous dirais qu'avant tout, là, on devrait considérer la santé comme une façon de voyager et non pas comme un objectif qu'on va éventuellement atteindre. Et ça, c'est un élément très important à prendre en considération parce que à partir du moment où tu comprends que la santé, c'est quelque chose que tu vas améliorer toute ta vie, tu vas être enclin à toujours l'améliorer. On ne va jamais l'atteindre, c'est pas ça. Et dans le deuxième livre, entre autres, on s'est pris un exemple. J'ai convaincu Dr. Lambert de se prendre un exemple avec moi-même dans un chapitre où on a pris tous les éléments que je discute habituellement, des facteurs les plus importants du vieillissement. On a expliqué de où on est parti puis où on est rendu aujourd'hui.
Exemple.
Et, par exemple, écoutez,
sur la longévité, on a fait des gains extraordinaires. Depuis les années, début du 20e siècle à nos jours.
Je parle d'un contexte beaucoup plus personnel.
Au plan personnel.
Nous autres même, on s'est pris un exemple.
Ah oui.
Fait qu'un exemple simple, là, moi je viens du Lac-Saint-Jean, mon accent, vous pouvez comprendre qui vient du Lac-Saint-Jean, d'une famille très pauvre, fait que j'ai été élevé à manger des patates puis de la viande rouge quasiment 3 fois par jour avec de la boisson gazeuse pour aller avec ça. Donc mon alimentation était complètement déséquilibrée et ça a pris des années avant de réussir à rétablir ça. Mais de la même façon, je parle de l'importance de la vie sociale de qualité. J'ai eu moi-même à travailler l'idée, en fait, de réussir à parler de mes émotions. À un point tel, même, je vais vous donner une facette intéressante. J'ai réalisé au cégep, puis c'est ma sœur qui m'en a fait... c'est ma sœur qui a travaillé avec moi dans le processus, que j'avais de la difficulté à dire merci. Mon enfance était tellement difficile, en fait, que je sortais de l'enfance avec la difficulté à dire merci. En fait, j'étais renfermé quelque part. Là. Et donc, ces choses-là qui nous sont personnelles, ce qu'il faut considérer avant tout, c'est qu'on va toujours cheminer. On a à les améliorer. Ce que j'explique aux gens, peut-être un très, très bon conseil, c'est apprendre à bien se connaître l'endroit où on peut faire le plus gros gain, y consacrer des efforts, se donner du temps, et une fois qu'on a amélioré celui-là, de passer au suivant.
Tu te regardes dans la glace et ta jeunesse soudain s'efface. Souviens-toi. Souviens-toi, moi j'ai vieilli sans t'oublier. Toute ma vie, je t'ai aimé. Pense à moi, pense à moi. De mes 20 ans, j'ai su donner tout ce que j'ai. Imaginez que de joie, toutes ces heures qui ont marqué ces 12 instants pleins de gaieté. N'oublie pas, n'oublie pas. À mes côtés, près de moi, près de moi. Tout en tremblant, je te retiens. Regarde-moi et prends ma main. Souris-moi, souris-moi. Et t'en fais pas. Souris-moi.
Patrick Normand qui vient de chanter Vieillir ensemble. On veut tous vieillir et mourir le plus loin possible dans notre existence. Personne ne veut mourir, tout le monde veut aller au ciel, paraît-il. Il est possible, cependant, de donner de la vie à notre vie en améliorant notre santé, notre bilan global, en se nourrissant bien, en ayant de bonnes relations. C'est un peu l'esprit de vos livres, mais vous continuez à faire de la recherche dans ce domaine. Et est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles on travaille plus profondément par les années que nous connaissons en ce moment? Avec le vieillissement global de la population, j'imagine que vous avez tout un champ exploratoire.
Oui, bien, autant au niveau de la compréhension des saines habitudes de vie qu'on a compris des choses épatantes, comme par exemple, pour vous donner un exemple, l'activité physique. Là. À partir du moment où on a une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, c'est déjà bénéfique. On pensait pas ça auparavant. Et en tant que tel, dans la recherche de pointe, dans le domaine du vieillissement, on est en train de faire des avancées vraiment fantastiques, extraordinaires, je dirais, parce qu'on découvre des molécules qui vont améliorer nos capacités de maintenance et de réparation. Donc, autrement dit, les gens qui mettent déjà les chances de leur côté pour bien vieillir, ça va augmenter encore plus leurs chances de rester en santé encore plus longtemps.
Le mot de la fin, si je vous demande, pour vous, le bonheur, qu'est-ce que c'est?
Ah, avant tout, c'est les amis. C'est les amis, c'est la vie sociale, c'est les relations familiales, c'est les observations, les petites observations de la vie de tous les jours. Et je m'oblige constamment à m'arrêter parce que vous comprendrez que je suis quelqu'un qui va à une vitesse quand même effarante. Et donc, ça aussi, c'est un réflexe que j'ai essayé de développer, de m'arrêter constamment pour essayer de profiter du moment présent et de le partager, ce moment-là, avec des gens que j'apprécie.
Oui, parce que vous dirigez une entreprise de produits suppléments nutritifs, je crois.
Oui, on vend des produits de santé naturelle de très grande qualité qu'on a réintégrés, en fait, dans la pratique des professionnels de la santé.
Et ça vous occupe beaucoup.
Oui, bien ça, les conférences, écrire des livres, ça va de soi, oui.
Bien, on vous souhaite de vivre longtemps, très vieux et en santé, avec plein d'amis autour de vous. C'est ce qu'on souhaite à soi-même également.
Merci beaucoup.
Le temps de vous remercier d'avoir été des nôtres. L'émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné, Armand Dubois, l'animation et réalisation. Et puis, on va essayer de mettre en pratique tous ces bons conseils qu'on a entendus de la part d'Éric Simard. Merci d'avoir été des nôtres.
C'était vraiment un très grand plaisir.
Et on va écouter Richard Abel pour nous dire un beau au revoir, une belle romance, interprétée à son piano.